Et bonjour à toutes et à tous, cinéphiles et joueurs bien réels, bonjour et bienvenue. Vous êtes à l'écoute du Journal des Rencontres, 7e épisode de cette folle semaine des Rencontres des Cinémas d'Europe, où nous avons posé nos valises et nos micros au studio Claude Lost, au centre Le Bourneau. Vous pouvez nous rejoindre pour de vrai tous les jours à midi et 17h en salle 103. Cet après-midi, il ne s'agit plus de questionner la limite entre le réel et le virtuel, mais bien de prendre acte de nouvelles formes cinématographiques hybrides entre cinéma et jeux vidéo, et aller voir du côté des joueurs ce qu'ils racontent de notre monde bien réel. On va parler du film Needs Island, L'île sans fin, de Ekiem Barbier, Guilhem Kos et Quentin Lelgoulash, qui, sous les traits d'Avatar, ont pénétré un lieu, un vaste espace de 250 mètres carrés, qui n'existe que sur Internet, pour interroger ses habitants joueurs. Il en résulte 150 heures de rush sur 963 heures de jeu, qu'il fallait bien monter pour arriver à ce documentaire inédit sur la forme et passionnant sur le fond. Et nous avons la chance d'être justement avec le chef monteur, le quatrième créateur en quelque sorte de ce documentaire, Nicolas Bansillon. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pour vous interviewer, il y a à mes côtés Mathieu. Salut Mathieu.
Salut.
Bienvenue aussi.
Eh ben merci.
Et salut Clara. Au mixage.
Salut.
À la régie ici. Et puis vous le savez, il y a Sylvain qui est toujours de l'autre côté dans les locaux de Fréquence 7, exilé du jeu, qui est sur son île, l'île sans fin, qui s'appelle Fréquence 7. Salut Sylvain. Bienvenue. Donc Nicolas, tu es là puisque demain matin à 9h, tu proposes à 10h45, après la projection du film Needs Island, L'île sans fin, au centre Le Bourneau, une rencontre. Donc on va pouvoir échanger avec toi sur ce film. Et puis tu seras aussi présent demain toujours à 15h à la médiathèque pour une table ronde avec d'autres sur notre rapport au réel. Est-il en mutation ? Grande question. Alors, pour commencer, est-ce que... on va plonger dans le jeu. Est-ce que tu peux dire, on va se défausser, est-ce que tu peux raconter en quelques mots le film et le jeu, d'où il provient ?
D'accord. Needs Island, c'est un film documentaire tourné à l'intérieur d'un jeu, qui est un jeu de survie, un jeu en roleplay, donc, où les gens vont faire du jeu de rôle, très clairement. Et ça veut dire qu'il y a des gens avec des avatars qui parlent et qui se rencontrent ou pas. Alors la carte, elle fait 250 km² par mètre carré, donc c'est assez grand. Et c'est un jeu dans lequel on se déplace à la même vitesse que dans le réel. Tout est un peu reproduit. Accessoirement, ce jeu, c'est un jeu de survie, donc c'est un peu un monde post-apocalyptique avec des zombies, qu'il faut tuer de trois coups de je sais pas quoi, mais c'est juste un prétexte. Et après, les gens se font leur jeu à l'intérieur, on va dire.
Leur jeu, leur vie.
Voilà. Non. Alors moi, tout ça, quand j'ai rencontré les trois réalisateurs, j'avais jamais mis les pieds dans un jeu vidéo, ni même et encore moins dans un jeu de rôle. Donc, je savais pas trop. Je comprenais pas exactement ce qui allait se passer. En tout cas, là, c'est trois réalisateurs qui sont incarnés par trois avatars, le technicien, le journaliste et le caméraman. À savoir qu'ils vont évoluer dans le jeu et essayer de rencontrer des gens. Donc ils ont choisi un serveur. Alors un serveur, il faut imaginer que le serveur, c'est celui qui va rassembler sur cet espace-là, sur cette carte, une centaine, 200, 300 joueurs. Et chaque serveur a ses règles. Et sur ce serveur, ils savaient qu'il y avait des communautés assez fortes, avec des joueurs un peu chevronnés, un peu plus âgés en tout cas, pas des jeunes joueurs. Donc des gens qui avaient un petit peu l'expérience, des gens qui avaient joué beaucoup et qui avaient créé une communauté qui s'appelait Le Village. Bon, alors à l'intérieur du jeu, il va y avoir des histoires, il y a des groupes, ils se battent entre eux, je ne sais pas, en tout cas au début du film, c'est comme ça. Et eux, donc, du coup, incarnent une équipe vidéo. Et donc, le caméraman va vraiment être le caméraman, c'est-à-dire qu'il va filmer, il va être une tête caméra. Et ils vont le. Alors, les joueurs qui rencontrent l'équipe, quand ils voient le caméraman, ils ne voient pas la caméra. Il n'a pas de caméra sur lui. Mais ils lui disent, c'est le caméraman. Donc, ils comprennent que c'est une tête caméra et lui, il filme. Le technicien, c'est celui qui. C'est un peu comme une sorte de régisseur. Donc, il va tuer les zombies parce qu'à un moment, pour tourner, il faut pas qu'il y ait de zombies qui viennent nous embêter. Il va faire un feu au pied du caméraman pour pas qu'il tremble, pour pas qu'il ait froid. Il va faire une deuxième caméra.
Et il va se soucier du bien-être de l'équipe.
C'est ce
à quoi sert un régisseur.
Un régisseur, à faire à manger, tout ça, chasser, à faire à manger. Et la troisième personne, c'était donc le journaliste qui pose des questions, mais qui est aussi finalement le. C'est le preneur de son, parce qu'il se rapproche des gens. Et savoir qu'en fonction de la distance à laquelle on est, on va entendre ou pas entendre. Donc, c'est un peu la perche invisible du film. Donc, c'était très. C'était organisé un petit peu comme dans le réel d'un tournage. Voilà.
Et toi, tu arrives à quel moment du projet ?
Ils sont en cours de tournage. Ils ont. Déjà monté un premier film dans GTA qui était un moyen métrage après leurs études aux Beaux-Arts de Montpellier où là il s'agissait pas de communauté mais voilà il y avait un petit peu cette idée de roleplay etc et puis par connaissance on se rencontre et puis ils me disent qu'est-ce que tu en penses je regarde et tout de suite même sans rien y comprendre j'avais envie d'aller explorer ce monde-là, voilà. Mais comme si on m'avait proposé un film sur, je ne sais pas, un autre monde que je ne connais pas. Il y en a plein. C'est tout le temps comme ça. Donc du coup,
on
s'est rencontré un petit peu en cours de tournage. Après, moi, je n'étais pas présent au tournage. Je suis passé deux, trois fois les voir, voilà. Et on a parlé beaucoup de, entre autres, de la place que eux devaient prendre dans le film pour le rendre compréhensible pour nous spectateurs. Voilà. Moi, je ne jouais pas. Je n'ai jamais joué avant ça. Et du coup, c'était un petit peu pour eux, évident de prendre quelqu'un qui n'avait pas joué, qui allait pouvoir aussi rendre la compréhension, en tout cas.
Traduire, en fait. Tu es un peu l'interprète, voilà. L'interface interprète entre nous, spectateurs lambda, qui, pour la plupart, n'est pas sensibilisé à ces jeux. Pour comprendre ce qui se passe. Tu voulais, Mathieu ?
Oui, c'est durant le film, on sent qu'on est dans une période de Covid, en tout cas de confinement. Est-ce que pendant tout le film, alors le film a été tourné pendant cette période, ou c'est beaucoup plus large ? Est-ce que vraiment le Covid et cette période un peu très particulière a été le prétexte pour le réalisateur de dire, bon, on se lance dans ce projet à fond parce qu'il y a des choses à faire, avec le contexte, avec tout ce que l'on veut ? Ou est-ce que le Covid est arrivé là parce que, il était là et le projet, ça n'a pas...
Oui, c'est passé comme ça. Ils étaient déjà en tournage, le Covid est arrivé. Et c'est vrai que c'est un petit peu tout chamboulé. D'ailleurs, dans le film, le moment du Covid, qui est quand même beaucoup en écho, aurait pu être beaucoup plus présent. Mais on n'avait pas envie, en fait. Donc, il est un petit peu là parce qu'effectivement, il y a ce temps, il y a cette overdose de jeu, cette perte, mais en même temps aussi ce moment de se retrouver. Mais on voulait le dépasser et ça c'était important. Mais effectivement, non, ça n'a pas été construit autour de ça. Après, c'est vrai que c'était un petit peu à propos, quoi, effectivement, à un moment que ça arrive. Quoi.
Tout à l'heure, on parlait de documentaire de façon générale. Et on disait que surtout toi, tu disais qu'au début, quand ça commence, tu ne sais pas encore comment ça va terminer. Donc. Ah non, je crois c'est un débat de ce matin. Je sais même plus. On disait ça. Je me suis emmêlé. Mais en tout cas, je trouve assez vertigineux 150 heures de rush de vidéos qui sont prises en vue subjective dans un jeu vidéo pour quelqu'un qui ne joue pas au jeu vidéo, qui n'y a pas encore de trame, ça se construit au fur et à mesure. Est-ce que c'était exaltant? Pour toi, est-ce que c'était vertigineux, un peu effrayant ? Est-ce que c'était un projet voilà, un projet vraiment qui sort du lot par rapport à tout le reste. Comment tu l'as vécu, ce projet ?
Un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'au départ, la première scène qu'ils m'ont envoyée, ils m'ont envoyé une scène, enfin, j'étais passé les voir, j'avais vu un peu de tournage, j'arrivais à comprendre, mais ils m'ont envoyé une scène qui est... alors, si on n'a pas vu le film, j'explique, à un moment, tous les joueurs se retrouvent et partent essayer de... notre équipe et les joueurs qu'ils ont rencontrés se retrouvent et partent explorer les limites du jeu, c'est-à-dire l'infini, le bord de la carte. Ça, c'est un moment assez important. Et pour eux, c'était une scène assez importante. Et sans que eux soient à mes côtés, parce que ça ne se passe pas comme ça en général, les rushages, ils m'ont dit « Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette scène ?» Donc, ils m'ont envoyé les rushs. Et moi, j'ai passé une journée à regarder. Et je leur ai dit « Bah, très clairement, je ne comprends rien. » Mais c'était sincère. Je ne comprenais pas. Et donc, du coup, après, quand on a démarré le montage, on commence par regarder. Voilà, le dérochage, c'est le plus gros du travail. Vraiment, le plus gros du travail en montage, c'est le moment où on va découvrir les rushs. On s'est mis dans... j'avais une cave, on avait un écran de projection, on était tous les cinq, parce qu'il y avait donc les trois réalisateurs, Ekem, Guillaume et Quentin, mais aussi Boris, moi, tous les cinq, on a regardé pendant cinq semaines, enfermés, tous les jours, les 100 et quelques heures de rush. Et au début, je posais des questions surtout, mais pourquoi vous marchez là pendant des heures ? Bah, parce que pour aller de tel endroit à tel endroit, ça nous prend une heure. Donc, heureusement, ils ne filmaient pas une heure, mais c'était... là je monte un film qui se passe dans la jungle en Amazonie, c'est pareil, j'ai un peu les mêmes rushs, quoi. Mais j'étais obligé de poser beaucoup de questions pour comprendre un peu ce qui se passait. Et puis, un peu vers les trois quarts du film, c'était difficile par moment de projeter un film, mais vers les trois quarts du dérochage, quoi, on va dire au bout de la troisième semaine, donc oui, il y a des personnages qui se sont révélés. On avait déroché aussi dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'ils ne m'avaient pas montré, par exemple, eux, ce qui leur semblait le plus fort, pour que je puisse comprendre leur expérience à eux. On a déroché dans l'ordre chronologique. Ça ne veut pas dire qu'après, le film est monté dans l'ordre chronologique, mais pour revivre ce qu'eux avaient vécu au tournage.
Et pour t'aider vraiment à comprendre et à comprendre toute l'évolution aussi.
Exactement,
de ce qui s'est passé.
Voilà. Et donc là, à peu près, fin de troisième semaine, pour moi, il y avait le film, il existait. Je ne savais pas encore exactement dans quelle forme, on ne savait pas, mais en tout cas, voilà, les personnages existaient, on savait où ça pouvait aller et que ça pouvait être fort. Après, on avait beaucoup de matière, beaucoup de personnages. Il y a un moment, on a arrêté, ils avaient mis un petit peu de côté quelques rushs, et puis il manquait une scène. À un moment, on est retourné dans des rushs, je les ai questionnés, mais il faudrait... On a trouvé cette mère au foyer qui décroche du jeu, voilà. Et donc, c'était essentiel de l'avoir à un moment du film. Enfin, il fallait trouver. Et voilà, après, on a fait nos petits blocs. On a passé 15 semaines en montage, en tout.
C'est un moment intéressant, là, que vous évoquez dans le film, ce moment où, justement, l'arrière-monde, la vie, ce qu'on appelle la vie réelle, s'insinue dans le monde réel. C'est-à-dire que cette joueuse-là, qui vit sa vie dans ce jeu, finalement, est rattrapée et on l'entend. D'ailleurs, grâce à tout un travail de montage et de montage son, on l'entend. On entend un chien aboyer, puis ses enfants, qui la rappellent à son autre vie, que oui, elle a des enfants et qu'il faut peut-être aller voir s'il n'y a rien de grave qui se passe, quoi.
Mais c'est en même temps un plan de cinéma direct, ça s'est vraiment passé comme ça. Le chien a réellement aboyé. Alors après, nous, on l'a un petit peu retravaillé, mais c'était vraiment comme ça. Et cette scène, je décris, il rencontre une communauté qui se protège dans une prison. On rencontre une femme qui se prénomme Fish dans le jeu, et qui nous montre sa chambre. Sa chambre, c'est une cellule, et elle dit « Ici, je me sens en sécurité, le monde... » Et elle est vraiment prise dans un monde de jeu de rôle, de sorte de Troisième Guerre mondiale, etc. Puis on part avec elle, on marche, puis on trouve une ruine dans laquelle on fait l'entretien. Et au moment... donc, dans les rushs, ça dure longtemps, tout ça. Ça dure peut-être 45 minutes, l'entretien, où elle raconte... Et Kem essaye de lui poser des questions essaye d'aborder le réel. Et en fait, le réel, on ne peut pas l'aborder comme ça de manière frontale dans le jeu. Sinon, on se fait bannir, en fait. Mmh. Les c'est gens, ils ne sont pas là pour parler du réel.
C'est une règle implicite.
Donc là, il y avait tout un travail de la part des réalisateurs d'arriver à avoir la confiance pour pouvoir poser les questions. Et au moment où la question du réel commence à arriver, le réel, dans sa vie, vient et fait fraction. Le chien aboie. En l'occurrence, c'est son avatar qui aboie. Les enfants pleurent. Elle dit « Attendez, je reviens », elle part en courant, et l'avatar reste muet et figé au milieu de cette ruine. Et bon, après, elle est revenue. Bon, là, nous, on a arrêté, c'est tout. Et cette scène était vraiment magnifique, et surtout de la voir en rush brut, comme ça, c'était très puissant, un peu fatigant, parce que c'était long. Et d'un coup, donc on a passé beaucoup de temps pour arriver à reproduire ce qu'on avait ressenti en dérochage. Je crois que ça marche bien parce que c'est une scène qui revient souvent dans les débats et qui marque. Et c'est vraiment la scène qui permet de faire aussi basculer le film à ce moment-là.
Ah, oui. Parce qu'avant cette scène, le réel, on présente des communautés. Je pense à celle qui est cannibale. Oui. Cette communauté. On se dit, mais où va le film là? Qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que c'est une scène clé où le film va basculer, va avoir peut-être même... je peux parler de poésie, parce qu'il y a des moments qui sont extrêmement poétiques.
Qui sont magnifiques. Ouais.
Qui sont, par les plans de caméra et par ce que les gens disent. C'est le moment de silence avec des gens qui parlent. Là, il y a une bascule. D'ailleurs, c'est là où, personnellement, en tant que spectateur, j'ai plongé dans le film. Donc voilà, cette scène, elle est géniale.
C'est vrai que c'est une scène clé qui arrive au milieu, à 45 minutes du film, comme souvent... Hop là, il y a une bascule dans la narration. C'est vrai qu'au début, on se questionne beaucoup. Moi, je dois dire, effectivement, j'ai été subjuguée par ce film. Au début, je me questionnais tout le temps. Je me disais, qu'est-ce que je regarde? Je ne comprenais rien, peut-être un peu comme toi, Nicolas. Je ne suis pas du tout habituée à ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai? C'est pas vrai? C'est quoi? C'est un jeu qui existe, qui n'existe pas? Et puis, au début, je pensais que ça allait abonder dans l'idée que beaucoup se font angoissant de se dire « Ah, c'est vraiment un monde pour des gens qui sont maboules, qui vont faire du cannibalisme, etc. » Et pas du tout. Et pas du tout. Le film amène complètement autre chose, justement, alors dans la réalité de ce que vous avez filmé, bien sûr, mais dans la narration du film. Ça nous amène complètement ailleurs. Tu parles de poésie, bien sûr, il y a la poésie, il y a la douceur. Et surtout quelque chose, ça parle beaucoup de personnages et de personnes. Comment justement, tu disais qu'à un moment donné, dans les dérochages, il y a des personnes, des personnages, presque qui sont apparus.
Ouais. C'est un petit peu quand j'ai fait abstraction de leur avatar, quoi. Que je me projetais plus la personne derrière l'écran, derrière son écran qui parlait. Et ça me l'a fait en dérochant. Donc il fallait arriver à produire cet effet-là dans le film. Et je pense que c'est ça, de ce que j'ai compris, c'est ça l'expérience de jeu. L'expérience réelle de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devient concret, ça devient réel, ça devient un souvenir dont on peut rêver. Donc la nuit, ça m'est arrivé de rêver des personnages, mais du coup avec leur tête dans le jeu, leur avatar. Ils avaient choisi un jeu aussi qui n'était pas trop moderne, parce qu'il est un petit peu vieux ce jeu. Donc du coup les avatars, ils ne sont pas lisses comme dans les derniers jeux GTA, où il y a quelque chose un peu assez cinégique quand même, assez... pareil pour les plans de nature, etc. Donc du coup, c'était assez doux comme endroit. Voilà. Et donc je pense, à un moment, j'en ai oublié. Je le montais comme n'importe quel autre film, quoi. Bon, bien sûr, on avait un thème à traiter. On était dedans, quoi. Mais...
C'est ça. Alors, une précision. Oui, ce jeu existe. Il s'appelle...
Le jeu s'appelle DayZ.
DayZ.
DayZ ou DayZ. Ouais.
Et... sur le ce qui est vraiment fascinant et déstabilisant aussi, c'est effectivement d'avoir les avatars et d'avoir le son. Donc il y a dû y avoir un gros travail de synchronisation du son donc qui est réel des joueurs sur leurs avatars, et c'est eux, c'est ces discussions. Donc c'est en fait finalement ça mêle le personnage et la personne.
Oui, on a beaucoup travaillé sur les voix au montage son et au mixage avec Mathieu Farnarié. Montage, alors les avatars parlent, on a essayé de recréer un petit peu de ça. Enfin, en tout cas, moi, ce dont je me suis rendu compte, surtout dans les plans larges, c'est qu'il fallait recréer le synchronisme réel, vraiment au plus proche, un peu comme au cinéma, même si c'est pas toujours parfait. Parce que dans le jeu, ça peut être un peu plus bordélique que ça, même si. Et les joueurs, eux, comprennent qu'ils parlent, qu'ils parlent pas. Pour quelqu'un de novice, c'était plus difficile. Et oui, il y a la voix, il y a effectivement la voix des joueurs, en plus qui passe à travers des micros un peu dégueulasses, hein, avec des acoustiques différentes de leurs pièces. Donc ça peut être... Et ça, on a essayé de préserver un peu ces acoustiques, puis par moments, on réalise complètement aussi l'environnement. Donc il y a eu un gros travail, effectivement, sur le son.
Okay. Moi, et là, ce qui me venait sur la construction, bah, du coup, de l'écriture, mais du montage, qui suit, j'ai trouvé ça fort de présenter, en tout cas, le spectateur, il est jeté dedans. Il est, voilà, on démarre le film, il y a un texte de présentation, et on y va. Et on parlait du réel et voilà, de l'imaginaire, en tout cas, du jeu vidéo. Et les trois avatars, moi, ça m'avait un peu, alors pas dérangé, mais... J'étais un peu, voilà, j'étais pas dans mes codes, exactement. Et quand les trois avatars se présentent, voilà, je suis réalisateur, etc. En fait, il n'y a rien qui est réel. La caméra n'est pas réelle, l'avatar n'est pas réel. Par contre, les personnes qui sont derrière le son et ce que l'on voit, c'est comme si...
Mais tout est crédible.
Mais c'est ça qui est beau, c'est que si ce monde, ce jeu vidéo était un monde parallèle, ce documentaire existerait. Il passerait là, qui parlerait peut-être de notre monde à nous. Je trouve que c'est une... en parlant des gens qui rêvent aussi de ce jeu et qui ont l'impression de vivre ça, moi c'est des sentiments que j'avais quand j'étais petit, que je jouais aux jeux vidéo, où mon imaginaire était totalement consacré après l'école. J'avais pas d'autres soucis que ça et je pouvais m'échapper pleinement. On parle d'échapper aussi dans ce film, les gens qui s'échappent de leur quotidien. Et je trouve ça déjà beau que les gens puissent se confier, surtout dans un jeu vidéo, en parlant du réel, qui vous ait fait confiance pour parler de ça librement. Et aussi, j'ai perdu un peu le fil, mais voilà, tout cet aspect de réel, en fait, qu'il est bien, parce que si on élargit au terme de cinéma, ce que l'on voit au cinéma, ben, bien sûr, que ça soit documentaire direct ou qu'importe, mais il y a une perception, il y a quelque chose que l'on raconte, il y a quelque chose qu'on a envie de raconter par rapport à son propre prisme. Alors, est-ce que c'est vraiment réel ou... Oui, c'est réel, ça s'est passé, mais c'est aussi raconté. Et je trouve que, voilà, plus je pense à ce film, et plus je me dis que ça raconte quelque chose qui est vraiment bien réel, mais l'imaginaire, il est... Bon, en tout cas, ça donne le champ de possibilité à n'importe qui de s'identifier dans la rêverie, dans la poésie. Tout est... On a le droit de s'évader aussi bien dans un jeu vidéo que dans la poésie, que dans la peinture. Et là, on est en plein dedans, je trouve. Voilà. Et... Ouais, vas-y, je te laisse.
Il y a un joueur qui dit ce qui compte, c'est le temps qu'on y passe et qu'est-ce qu'on gagne ou pas. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait avec ce temps-là, quoi, dans le jeu. Ce qui était un petit peu difficile, c'était qu'il fallait donner un mode d'emploi. Et en même temps, on n'avait pas envie de faire trop mode d'emploi. Et en même temps, il fallait. Mais c'était presque expliquer l'invention de la caméra dans le jeu vidéo, quoi. Parce que encore, enfin, c'est toujours un petit peu le cas. Mais je ne comprends pas d'où c'est filmé, quoi. Et donc, à partir du moment où ça s'était mis en place, donc du coup, la scène dont tu parlais, où les trois journalistes se présentent, et de ramener aussi une forme un petit peu de cinéma direct, continuité.
Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ? C'est la deuxième fois que tu parles de cinéma direct ?
Cinéma direct, dans le cinéma, c'est quelqu'un qui tient une caméra, et il n'y a pas d'artifice, on est dans une continuité, dans du plan séquence, à hauteur d'homme. Là, dans ce jeu, dans le film, je veux dire, on aurait pu utiliser plein de caméras à la troisième personne, caméra invisible, caméra drone, par exemple, je ne sais pas. Et en fait, on se l'est interdit. On a toujours été à la hauteur de la caméra était toujours visible, comme dans le réel. Et ça, c'est une règle qu'on s'est imposée. Et c'était très important, structurellement, pour... même si c'est pas... Même si ça tombe... même si le spectateur s'en rend pas compte, c'était très important pour cette impression de réalité. Et qu'on ne triche pas. Je triche plus aujourd'hui quand je monte des films qui se passent dans le réel que quand je monte celui-là. J'ai l'impression. Et j'ai vu des essais hein, de films où d'un coup on le voit que c'est triché. Où on le voit fortement. Et ça tient vraiment à une question de place de caméra. Alors, en documentaire, auteur, on revient toujours sur d'où on filme, qui on filme, comment on filme, d'où on filme de la personne. Exactement la même chose. Donc, c'est qui cette équipe qui rentre dans le jeu vidéo ? À des moments, on avait même les joueurs en face qui pensaient que l'équipe jouait un jeu de rôle d'être une équipe de cinéma. Mais au bout d'un moment, ils disaient « Ah, mais vous êtes des vrais documentaristes !»« Ah, mais devenez fous à l'intérieur !» Enfin. Et tout ça devenait un petit peu...
J'y ai pensé à moi aussi à ça. Je me suis dit, mais... Ouais, donc je le comprends. Ouais.
Mais ce réel, tu disais, finalement, c'est plus réel que certains documentaires que tu peux monter. Et ce serait presque la même chose... Enfin bon, c'est un documentaire, bien sûr, mais de la part des personnages, en fait, ces personnages, parce qu'ils ont le filtre de l'avatar... sont bien réels. Un des personnages le dit, on est, en fait, on est nous. Et c'est d'ailleurs un des personnages, je crois que c'est le révérend qui dit ça, qui est vraiment un des personnages centrales et qui fait que c'est, pour moi, un vrai film de cinéma où on est embarqué avec des personnages, notamment celui-là, et qui nous emmène loin, et on le suit d'autant plus, on le suit sur la durée, et on voit son évolution, et... C'est vraiment très touchant.
Ouais, ce qui était marrant, c'est que ce lieu donc, qu'on allait explorer, ce pays, cette contrée, je ne sais pas comment on pourrait appeler, il était vierge de cinéma. Pas de filmage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filment dans le jeu vidéo, en mode YouTube, ça moi j'ai compris après. Mais en tout cas, de documentaire et de narration, ouais, c'était en tout cas de cette forme-là. Donc du coup, ça amène aussi quelque chose d'assez sincère devant la caméra, je crois. Et effectivement, l'avatar, il permet d'être une sorte de filtre. La plupart des personnages sont pas venus à des projections du film en se présentant, je suis Slug et Macro. Non, ils se sont cachés, ils sont venus voir le film discrètement, mais c'est deux univers complètement séparés.
Deux univers séparés, mais voilà, sans divulguer quoi que ce soit, c'est vrai qu'à la fin du film, il y a un prénom réel qui effleure. C'est le seul et je trouve ça magnifique. Et on en reste là. Et c'est la petite pointe peut-être du réel dans le jeu, c'est tout. Mais... Ouais. Et pour cause. Enfin bref, allez voir, allez voir ce film. Simplement, j'avais une question. Vous êtes influencé de certains films, peut-être Chris Marker ou autre, qui a pas mal travaillé là-dessus, ou pas du tout, en termes de.
Pour ma part, moi, alors, en tout cas, je vais pas. Quand je monte un film, j'essaye de pas aller voir ce qui se rapproche trop du film avant. Donc, non, après, on fait avec nos influences, nos expériences, notre sensibilité, quoi. En tout cas, en montage, il y a vraiment une part d'intuition, de sensibilité, bien sûr, d'échange, de rencontre avec les réalisateurs, d'écoute, d'accompagnement. C'était un premier film, mais ils étaient trois réalisateurs. Donc, c'était un peu, pour moi, en tant que monteur, c'était un peu schizophrénique d'avoir trois réalisateurs, parfois, parce que genre, l'échange se fait à deux, mais à quatre. En fait, c'était super. C'était vraiment essayer de comprendre ce qu'eux avaient envie de raconter. Puis ils étaient multiples, eux-mêmes, trois réalisateurs. Donc, ils n'étaient pas toujours d'accord. Donc, du coup, ça faisait aussi avancer le film dans un sens un peu imprévu, quoi. Enfin, en tout cas, la fabrication du film.
Mathieu, c'est la fin de cette émission. Mathieu, est-ce que tu veux... Est-ce qu'il y a une question vraiment que tu veux poser? Tu m'as dit que tu en avais 1000, donc ce sera compliqué. Mais...
non, mais ça, en tout cas... La question qui me viendrait, c'est... Ça a été une nouvelle approche pour toi dans la façon d'apprendre le jeu vidéo, j'imagine. C'est un monde qui s'est ouvert à toi. Et est-ce que ça donne envie de découvrir d'autres choses dans le jeu vidéo ou ça a été une chouette expérience?
Moi, j'avoue que j'avais un peu des a priori sur le jeu vidéo, comme tout bon père de famille d'un ado qui n'avait pas d'ordi. Mon fils a maintenant un ordi, je le laisse jouer. Moi, j'y ai pas joué. On a continué nos expériences dans le jeu vidéo, parce qu'on a terminé avec Guillaume et Kem, deux des réalisateurs du film, une série qui se passe dans un jeu vidéo sur un serveur français, sur un mode de comédie, mais en même temps, c'est très profond et ça parle énormément de notre être dans le jeu et hors du jeu et du mal-être qu'il peut y avoir en dehors du jeu et qu'est-ce qu'on va chercher dans le jeu. Donc, on a continué à explorer ces mondes-là. Moi, je sais que... tant est que le jeu vidéo est une drogue, moi, ma drogue, c'est le montage. Donc, si je mettais les pieds dans le jeu vidéo, j'ai bien compris que c'était très séduisant, j'ai pas le temps. Donc, je n'y suis pas allé. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une question du temps qu'on y passe et qu'est-ce qu'on... Donc, voilà, après, c'est à chacun. Les joueurs vont très peu au cinéma. Ils ont plus besoin, en fait. Ce que j'ai compris, en fait, c'est... Voilà. Mais bon, il faut bien l'accepter, c'est comme ça. Il y a beaucoup de joueurs, donc il faut aussi interférer les deux, le cinéma, le jeu, et être un peu plus ensemble.
En tout cas, c'est vraiment ce que fait ce film. Et puis, en parlant justement de cinéma, je disais, j'ai l'impression que ces personnages sont vraiment des acteurs. Ils jouent acting, mais ils sont aussi les auteurs d'une certaine... de leur narration, de leur propre narration. Et c'est vrai que c'est assez vertigineux. Et j'imagine que... Ouais. Je me préserve aussi, parce que ça doit être une vraie drogue. Merci beaucoup. On aurait encore plein de choses à dire. Il y a un petit conseil lecture à écouter tout de suite, avant la fin de cette émission. Ça y est, c'est le moment lecture avec un conseil de Julien. Salut Julien.
Salut.
Julien de la librairie des rencontres, avec quoi es-tu venu ?
Je suis venu avec pas un livre justement aujourd'hui, je suis venu avec un magazine. Un magazine qui s'appelle Cometa. Alors pourquoi Cometa ? Parce que nous sommes les rencontres des cinémas d'Europe. Et quand on regarde les films de la programmation, on voyage en Europe, on vit l'Europe et on découvre des cultures. Et là, l'idée de Cometa, c'est de nous présenter le monde qui nous entoure à travers le regard des gens de l'Est. Donc du coup, c'est passionnant parce que vous allez avoir des journalistes, des photographes qui vont parler en fait des sujets que l'on peut connaître. Le dernier tome, il est sur les États-Unis, mais vu sous le regard, comment on voit les États-Unis quand on est dans les pays de l'Est ou encore un peu plus loin, etc. C'est assez génial. C'est des beaux objets aussi. Hein. C'est le genre de bouquin qu'on a toujours envie d'avoir sur la table basse de son salon, devant une cheminée, et se dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Je feuillette des pages, j'en lis un peu. On peut le mettre aux toilettes aussi.
C'est ce que je proposais.
c'est assez génial.
Les Français passent 45 minutes aux toilettes
toute l'année. Et en tout cas, on a les quatre premier magazine de cette revue Cometa, donc une revue européenne, mais vraiment à l'image de la programmation du festival.
Génial. Cometa à retrouver à la librairie des rencontres. Merci beaucoup, Julien.
Merci.
Et oui, c'était la petite parenthèse livre. Merci encore, Nicolas Bansion. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce film qui est vraiment un film magnifique que j'ai vu deux fois, plein d'humanité. C'est ce que tu disais, on s'y attend pas forcément et ça dit beaucoup de choses et aussi de ces univers qui sont poétiques, qui peuvent être contemplatifs. Des gens expérimentent des choses et même jusqu'à la contemplation, il n'y a pas que de l'action. C'est incroyable. Donc, Needs Island, on a retrouvé demain au Centre Le Bourneau avec une rencontre avec toi, Nicolas, à 10h45. Et puis, si on veut aller plus loin dans ces questions de notre rapport au réel, eh bien, il y a la table ronde, pas la conférence, mais la table ronde à 15h à la médiathèque. Notre rapport au réel est-il en mutation ? Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Il y a une soirée jeu avec Le Point Jeu à 18h ici au Centre Le Bourneau. Et puis il y a Haut-parleur à 21h. Voilà, on se retrouve demain midi, ou plutôt retrouver demain midi Olivier, qui parlera de l'histoire et des techniques du cinéma d'animation avec Lucille Picnaud. Merci beaucoup. Merci à toi Mathieu aussi.
Merci Sophie.
Merci Nicolas. Merci. Et merci Clara. Ciao.